Y es muy grande, ¿no? Y la profite pour commencer pour vous souhaiter une très belle, heureuse nouvelle année 2017, pleine de réussite pour tout le monde et de beaux projets. Et je vais présenter notre collègue amie, Monsieur Christine Vézina, qui poursuit son doctorat avec professeur Benny Clef et Guy Rocher. Et son titre porte sur le VIH en droit et droits de la personne. Alors, on est tous à l'écoute et hâte de savoir encore plus sur le sujet.
Merci beaucoup Maya. Merci beaucoup Monsieur Beniclef et Maya de m'avoir invité à présenter mon projet de recherche ou en tout cas l'état d'avancement de mon projet. Je dois d'abord m'excuser d'avance si certaines personnes se sentent victimes de fausses représentations parce que le résumé de ma présentation que j'ai rédigé en septembre a depuis cette époque-là beaucoup changé. Alors, pour vous aider à vous resituer aujourd'hui, je proposerais plutôt comme titre de ma présentation, la prévention du VIH-SIDA au Québec, une réflexion sur la trajectoire de normativité du droit à la santé. Je dois préciser là qu'à ce stade-ci, je travaille encore à l'élaboration de ma problématique de recherche, non sans embûche. Et donc, ce que je présenterai aujourd'hui, c'est donc le fruit là, du travail en évolution et non pas le produit fini. Compte tenu donc de l'avancement de mon travail, je serai en mesure aujourd'hui de vous présenter les raisons qui ont motivé le choix de mon sujet d'étude, les grandes lignes de ma problématique générale et spécifique de recherche. Je vais surtout appuyer sur les concepts opératoires parce que la rédaction et l'élaboration de mes concepts théoriques est encore en cours. Je vais terminer avec la formulation de mon hypothèse. Évidemment, je pense que c'est une chance de vous avoir aujourd'hui. J'espère que vos commentaires seront m'orienter ou m'aider, en tout cas, dans l'élaboration dans la préparation de mon examen de synthèse. Donc, le choix de mon sujet d'étude, j'ai choisi de travailler sur les stratégies de prévention du VIH-SIDA qui sont élaborées et mises en œuvre au Québec. Et dans la perspective d'une étude sur le droit, ce sujet laissait entrevoir diverses avenues de recherche. À titre d'exemple, l'accès aux soins et aux médicaments pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA, l'impact de la violation du droit à la vie privée sur le dépistage volontaire, ou encore l'impact de la criminalisation de la transmission du VIH-SIDA par relation sexuelle sur la prévention du VIH. Après avoir pris connaissance de la littérature sur ces questions, et notamment des écrits pluridisciplinaires des auteurs du courant Health and Human Rights, qui est un nouveau paradigme émergent en santé publique en vertu duquel les droits de la personne et la santé publique sont inextricablement liés et complémentaires, j'ai opté pour un thème qui me semble encore peu exploré dans la lutte contre le VIH-SIDA partout dans le monde, y compris en Occident. Mon sujet porte sur les effets de la pénétration encore balbutiante des normes du droit international, des droits économiques, sociaux et culturels, plus particulièrement du droit à la santé, dans les stratégies de prévention du VIH-SIDA au Québec. La trajectoire de cette norme vers l'ordre normatif de la santé publique au Québec sera donc au cœur de mes préoccupations. En ce qui concerne la pertinence sociale du sujet, je pense que dans la mesure où le nombre de personnes qui vivent avec le VIH ne cesse de croître au Québec, il apparaît tout à fait pertinent socialement de vouloir, d'une manière ou d'une autre, questionner l'efficacité des stratégies de prévention du VIH. Ces dernières semblent encore trop exclusivement axées sur les changements de comportement individuel au détriment de politiques de politiques horizontales et plus macro qui viseraient à s'attaquer concrètement aux déterminants sociaux, économiques et culturels de la santé dans le contexte de la lutte au VIH-SIDA, tels notamment les conditions et les milieux de vie, l'environnement physique, l'accès aux ressources de services de santé et des services sociaux. On constate en effet que les pratiques traditionnelles en santé publique ne semblent pas réussir à dépasser le stade de l'énumération des déterminants sociaux, économiques et culturels de la santé pour passer à l'action et engager des actions effectives sur ces derniers. Dans ce contexte, il semble approprié de réfléchir à la place, même si elle demeure encore ténue, qu'occupe le droit à la santé dans les nouvelles façons d'envisager les pratiques modernes de santé publique. En ce qui concerne la pertinence scientifique du sujet, Je dirais qu'elle se situe à deux niveaux. Premièrement, ma recherche, je l'espère, contribuera à enrichir les écrits du courant Health and Human Rights en traitant spécifiquement du phénomène encore émergent de la conceptualisation des déterminants de la santé sous le prisme du droit à la santé dans une perspective québécoise. Et deuxièmement, l'originalité de l'étude tiendra surtout au fait qu'elle portera sur la réception ou l'appropriation par des acteurs de la société civile, c'est-à-dire les organismes communautaires de lutte contre le sida, de normes non formellement reçues, intégrées et mises en œuvre en droit interne, et aux effets de cette appropriation sur les ordres normatifs cohabitants dans le champ de la santé publique. Si l'on considère, comme la professeure France Hull l'a fait dans un article de 2004, que depuis la décision de la Cour suprême dans l'affaire Baker de 1999, les juges de la Cour suprême peuvent, en ayant recours à l'approche contextuelle d'interprétation, voir dans les mesures administratives des signes de la mise en œuvre de normes de droit international, il apparaît extrêmement important de mieux comprendre les postures implicites ou explicites des acteurs de santé publique, communautaires et gouvernementaux, à l'égard du droit à la santé au Québec. Donc, cette prémisse étant posée, je vais maintenant vous présenter les grandes lignes de la problématique de recherche. Pour débuter avec la problématique générale, je vais définir d'abord le VIH. Donc, le VIH est un virus qui attaque le système immunitaire du corps humain. Avec le temps, ce système s'affaiblit et la personne qui a contracté le VIH peut être atteinte de plusieurs maladies. Finalement, le système immunitaire ne peut plus défendre le corps contre les infections, les maladies ou les cancers parfois mortels. Le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire le sida, est le stade avancé de la maladie causée par le VIH. Le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, a été découvert en 1983 par les chercheurs Luc Montagnier et Robert Gallo. L'infection en VIH ne peut être transmise que par le sperme, les sécrétions vaginales, le lait maternel et le sang. Les principaux facteurs de risque d'infection sont les relations sexuelles non protégées, le partage d'aiguilles et d'autres accessoires utilisés pour s'injecter des drogues, et la transmission de la mère au fœtus ou au bébé allaité. On note aussi que le virus a une forte tendance à s'attaquer aux personnes qui sont déjà marginalisées, discriminées et stigmatisées dans la société. Même dans les pays occidentaux, les personnes en situation de pauvreté sont plus vulnérables à la transmission du VIH. Le VIH-SIDA accompagne souvent la pauvreté, est répandu par la pauvreté et à son tour engendre la pauvreté. Quelques statistiques récentes maintenant en ce qui concerne le nombre de personnes infectées. Dans le monde aujourd'hui, 39,5 millions de personnes vivent avec le VIH. En 2006, 4,3 millions de nouveaux cas ont été déclarés et 2,9 millions de personnes sont décédées des suites du SIDA. Au Canada, à la fin 2005, 58 000 personnes vivaient avec le VIH. Sur ce nombre, entre 2300 et 4500 nouveaux cas ont été diagnostiqués au cours de l'année 2005. Au Québec, à la même période, 16 400 personnes vivaient avec le VIH et entre 500 et 1400 nouveaux cas ont été enregistrés. Les nouveaux cas d'infection au Québec sont constitués de 47 % d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, que je définis comme étant les ARSA, 17 % d'utilisateurs de drogues injectables, les UDI, 17 % de personnes hétérosexuelles originaires d'un pays endémique, 15 % de personnes hétérosexuelles originaires d'un pays non endémique et 4 % d'ARSA qui sont aussi UDI. Les femmes représentent 22 % de ces nouveaux cas. Les taux d'incidence sont stables au Québec d'année en année, mais ne diminuent pas. Donc, on ne peut pas dire que la prévalence du VIH est en diminution au Québec. Les taux d'infection sont en hausse chez les ARSA depuis 1996 et ne cessent de croître depuis le début de l'épidémie chez les hétérosexuels originaires ou non d'un pays endémique. Pour freiner l'incidence du VIH-SIDA, enfin, pour freiner la prévalence, le gouvernement québécois élabore et met en œuvre avec les acteurs de santé publique des stratégies de prévention du VIH-SIDA. Ces stratégies sont inévitablement teintées par les grands courants dominants dans le domaine de la santé publique, tant au Québec qu'au niveau international. Il importe donc d'en connaître les tendances générales afin de mieux saisir les enjeux contemporains relatifs à la conceptualisation des déterminants de la santé sous le prisme du droit à la santé. Donc, je vais très rapidement vous exposer, là, je pense, les trois courants contemporains dominants en matière de santé publique. Donc, depuis, qui ont émergé depuis les années 50. Donc, avant 1974, le modèle qui était prédominant, c'était le modèle de l'éducation à la santé. Donc, la création de l'Union internationale d'éducation pour la santé en 1951 par les professionnels de la santé entraîna de vastes échanges d'expériences et d'informations sur les nouvelles pratiques en santé publique. Et au cours des 25 années qui ont suivi la création de cette organisation non gouvernementale, les campagnes d'information commencèrent à cibler le grand public pour favoriser l'utilisation des services de santé mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. L'importance épidémiologique des maladies de civilisation dans les pays industrialisés surpassa alors les maladies infectieuses. Les facteurs de risque des nouvelles causes de mortalité furent identifiés comme étant de nature comportementale et devinrent la principale cible des programmes d'éducation à la santé. Ensuite, de 1974 à 1994, on a observé l'émergence du modèle de la promotion de la santé. Dans les années 70, il devint rapidement évident que les programmes d'éducation à la santé ne parvenaient pas à entraîner les changements de comportement escomptés. Des événements majeurs, tant sur la scène internationale que québécoise, entraînaient une révision significative de la manière dont l'éducation à la santé avait été conçue jusque-là. Et on observa à ce moment, un peu partout dans le monde occidental, suite aux deux chocs pétroliers de 73 et 76, des difficultés de plus en plus grandes pour maintenir le niveau de services de santé que les gouvernements s'étaient engagés à fournir à leur population. C'est dans ce contexte qu'au Québec fut publié le rapport Lalonde, qui capta immédiatement l'attention à l'échelle internationale. Il s'agissait en fait du premier document produit par un gouvernement d'un pays développé à faire valoir l'importance d'investir des ressources au-delà des services de santé pour la santé des populations. Le rapport présentait quatre éléments de la conception globale de la santé, c'est comme ça que c'était défini, les éléments de la conception globale de la santé, ce qu'on appellerait aujourd'hui les déterminants de la santé. Il s'agissait dans ce rapport de la biologie humaine, de l'environnement physique et social, des habitudes de vie et de l'organisation des soins de santé. Et dans les années qui ont suivi la publication de ce rapport, de plus en plus d'États occidentaux ont adopté leur propre version du rapport Lalonde pour encourager aussi des investissements dans d'autres secteurs que celui des systèmes de santé qui devenaient de plus en plus difficiles à financer par les fonds publics. Par la suite, la conférence internationale d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires de 1978, au terme de laquelle il fut recommandé de favoriser une approche plus globale ou holistique de la santé, en considérant l'individu dans son milieu. La résolution de l'Assemblée mondiale de la santé de 1979, qui est intitulée « La santé pour tous d'ici l'an 2000 », ont été des événements qui ont mené à la tenue en 1986 à Ottawa de la première conférence internationale sur la promotion de la santé. Et c'est à ce moment-là qu'il fut décidé que la transformation de l'environnement devait devenir une préoccupation aussi importante pour l'éducation à la santé que la modification des comportements individuels. Et après cet âge d'or, donc, de la promotion de la santé qui s'étale de 1986 à 1994, les études démontrent que la vision dominante de la promotion de la santé était orientée, en fait, sur le changement des habitudes de vie personnelles plutôt que sur un changement structurel plus général, même si c'était les changements structurels qui étaient préconisés dans la majorité des discours officiels. Donc, la période post-1994 en santé publique marque une période beaucoup moins enthousiasmante au Canada et partout ailleurs dans le monde en matière de promotion de la santé. Parallèlement à ce ralentissement dans le domaine du développement de la promotion de la santé, qui donc valorise les interventions sur les déterminants socio-économiques de la santé, on observe dans le discours et à l'occasion dans la pratique contemporaine de la prévention du VIH-SIDA un regain d'intérêt à l'égard des déterminants socio-économiques et culturels. Donc, pour poursuivre, on va maintenant s'intéresser davantage justement aux stratégies et pratiques de prévention du VIH. Donc, l'évolution des stratégies de prévention du VIH élaborées et mises en œuvre au niveau mondial, canadien et québécois est révélatrice de l'état des connaissances médicales et en santé publique, des perceptions des individus à l'égard du VIH-SIDA et des nouvelles représentations collectives du VIH. Ces stratégies ont connu trois périodes importantes qui ont graduellement déplacé l'attention des concepts de danger et de risque à celui de vulnérabilité et de contexte culturel, social et économique. qu'on pourrait qualifier de première, deuxième et troisième génération de stratégie de prévention du VIH. Face au constat non satisfaisant à l'égard des stratégies de prévention traditionnelles, parce que là, les constats sont insatisfaisants parce que la pandémie est toujours en progression, donc, face à ces constats non satisfaisants, les stratégies de prévention traditionnelles, tout en énumérant de longues séries de déterminants sociaux, économiques et culturels, demeurent principalement préoccupées par les changements de comportement individuel et à l'égard de ces pratiques, de nombreux médecins, anthropologues, juristes et activistes, qui forment en fait une véritable communauté épistémique sur la question, cherche à conceptualiser les déterminants sociaux d'une manière qui puisse permettre des actions concrètes visant leur modification et ainsi dépasser la rhétorique dans laquelle semblent se cantonner les acteurs de santé publique. Ces auteurs, penseurs et activistes voient dans le cadre conceptuel des droits de la personne un vocabulaire, une grille d'analyse servant à identifier les actions pertinentes à entreprendre dans le but de modifier les déterminants de la santé. Alors que certains perçoivent dans ce schéma une tendance à politiser la santé publique, d'autres y voient plutôt la création d'une santé publique moderne visant à susciter des changements structurels en profondeur. Depuis plus de 10 ans, de nouvelles manières d'appréhender les stratégies de prévention du VIH-SIDA basées sur les droits de la personne prennent forme un peu partout dans le monde. À l'initiative d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, d'associations de personnes vivant avec le VIH ou d'organismes communautaires. Certaines de ces stratégies visent à s'attaquer aux obstacles structurels en amont à l'accessibilité aux programmes de prévention. Conformément aux tendances actuelles en santé publique, la stratégie québécoise de lutte contre l'infection par le VIH et le SIDA, l'infection par le VHC et les infections transmissibles sexuellement, qu'on qualifiera de stratégie québécoise pour le reste de l'exposé. Donc, cette stratégie semble encore bien ancrée dans une perspective de réduction des risques individuels, alors que l'on note chez les organismes communautaires de lutte contre le SIDA une volonté de travailler en vue de modifier les déterminants sociaux, économiques et culturels qui constituent des obstacles à la prévention du VIH. Et pour réaliser ce travail, on constate chez les organismes communautaires une certaine appropriation, tacite ou expressément affirmée, de l'approche basée sur les droits de la personne. Et à la lumière de cette approche, l'analyse des déterminants sociaux plaçant les individus en situation de vulnérabilité au VIH permet de conceptualiser certains enjeux tels les inégalités liées au sexe, la discrimination à l'égard de certains groupes de la population, la pauvreté, comme tant de violations du droit à la santé. Dans ce contexte, les violations aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, fréquemment à l'origine de la vulnérabilité au VIH-SIDA, se trouvent souvent imbriquées. Pour tenter d'agir sur ces déterminants sociaux, économiques et culturels, les organismes communautaires dont la portée de leurs actions sont souvent restreintes à leur milieu, tentent de plus en plus d'intégrer le contenu normatif du droit à la santé dans leur représentation des pratiques de prévention. Cette approche des problématiques a notamment comme effet d'entraîner des interventions sur les milieux socio-économiques et culturels au niveau local. Avant de poursuivre dans la description de ma problématique, je prendrai quelques minutes pour vous situer ou enfin vous définir quels sont les acteurs de santé publique auxquels je fais référence dans ma problématique. Donc, dans un premier temps, j'ai évoqué la place importante des organismes communautaires de lutte contre le SIDA. La plupart de ces organismes ont un statut, en fait, que je qualifierais d'hybride au Québec. Hybride parce qu'ils sont à la fois des acteurs de l'action communautaire autonome, laquelle est définie comme une forme d'exercice de la citoyenneté axée sur le regroupement d'individus sur la base de leurs intérêts communs et ayant pour but l'amélioration du tissu social et de la qualité de vie au moyen d'interventions visant la transformation sociale. Donc, ils sont à la fois des acteurs de cette action communautaire autonome et à la fois des partenaires des acteurs gouvernementaux de la santé publique. Ils bénéficient d'une autonomie qui est reconnue par la loi sur la santé et les services sociaux et définissent librement leurs orientations politiques et approches en matière de prévention ou de soutien à l'égard des personnes qui vivent avec le VIH. Ils sont aussi quasi exclusivement financés par les acteurs gouvernementaux de santé publique. Ce double mandat de défense des droits et de prévention du VIH-SIDA les distingue des acteurs gouvernementaux de la santé publique et les conduit souvent sur le terrain des luttes sociales dont le spectre dépasse les frontières du VIH-SIDA. Les acteurs gouvernementaux de la santé publique, les acteurs qui constituent les acteurs gouvernementaux de santé publique sont plutôt composés de la Direction nationale de santé publique, des directions régionales de santé publique et des centres locaux de santé et de services sociaux, qui ont tous un rôle à jouer sur leur territoire en matière de santé publique. Le service de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang, le SLIT, est une structure administrative de coordination créée pour contrer les différentes problématiques engendrées par la propagation du VIH-SIDA. Dans le cadre de la réalisation de la stratégie québécoise de lutte contre le VIH-SIDA, tant les acteurs gouvernementaux de santé publique que les organismes communautaires sont appelés à travailler en partenariat. La culture et les valeurs de chacun de ces acteurs, qui diffèrent sur un bon nombre de points, orientent inévitablement leurs approches en termes de prévention du VIH. La culture de défense des droits des organismes communautaires place ces derniers dans une position d'ouverture et d'intérêt à l'égard du droit international des droits de la personne, tel que défini dans les traités internationaux, et co- et surdéterminé par les comités sur les droits économiques, sociaux et culturels, le Programme conjoint des Nations unies sur le VIH-SIDA, c'est-à-dire ONU-SIDA, les diverses résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies en lien avec les problématiques de VIH-SIDA, et les congrès internationaux qui ont lieu sur le VIH-SIDA. Le droit à la santé constitue pour ces acteurs une source d'orientation renouvelée de leurs actions. Donc, ce droit à la santé est défini, enfin, la santé est définie dans le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ce même texte, ce préambule, prévoit que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. L'article 25.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme va aussi dans ce sens, en précisant que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reprend sensiblement dans les mêmes termes cette définition, en ajoutant au paragraphe 2b que les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la lutte contre les maladies endémiques. De nombreux autres documents universels et ou régionaux et ou thématiques reconnaissent aussi le droit à la santé. En 2000, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels chargé du suivi de l'application du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels a élaboré l'observation générale numéro 14 sur le droit à la santé. Et ce texte souligne l'importance d'une interprétation évolutive du droit à la santé qui tienne compte des problématiques contemporaines en matière de santé. Le comité y précise que la promotion des déterminants sociaux de bonne santé doit s'inscrire dans les stratégies de lutte aux maladies endémiques. Le droit à la santé vient aussi se colorer des particularités reliées au VIH-SIDA dans un corpus qu'on pourrait qualifier de soft law du VIH-SIDA. De nombreuses études tendent à démontrer l'exactitude de l'hypothèse à l'effet qu'il existe un lien entre les violations des droits de la personne, tant civiles et politiques qu'économiques, sociaux et culturels, et la vulnérabilité au VIH-SIDA en amont en ce qui concerne la prévention et en aval en ce qui concerne la qualité de vie des PV-VIH, des personnes qui vivent avec le VIH. Et de nombreux textes adoptés notamment par l'OMS, le Programme commun des Nations unies sur le VIH-SIDA, l'Assemblée générale des Nations unies, reconnaissent ces liens et suggèrent tant aux États qu'aux acteurs privés des actions visant à la fois le respect, la protection, la mise en œuvre des droits de la personne et notamment la prévention du VIH. Ces textes prennent souvent la forme de directives internationales, de codes des meilleures pratiques et de guides à l'intention des législateurs. les organismes communautaires de lutte contre le sida pigent dans ces textes juridiques les ressources normatives les plus susceptibles de guider leurs actions et d'influencer leurs partenaires gouvernementaux, desquels dépend, malgré une reconnaissance formelle de leur autonomie, leur financement. Le droit à la santé, en vertu desquels les organismes communautaires tentent de développer leur stratégie de prévention, n'est pas incorporé de manière formelle en droit interne. Il n'est reconnu au Québec ni dans la section de la Charte des droits et libertés de la personne qui porte sur les droits économiques, sociaux et culturels, ni dans la loi sur la santé publique, ni dans le Programme national de santé publique et ni dans la stratégie québécoise de lutte contre le VIH, SIDA. Eu égard à cet état de fait, il semble approprié de s'interroger sur les effets que peuvent entraîner la norme du droit à la santé dans le domaine de la prévention du VIH-SIDA au Québec, en l'absence d'une reconnaissance formelle de ce droit dans l'ordre juridique interne. Et c'est par le biais de la théorie du pluralisme de la normativité juridique et non juridique, enfin c'est cette théorie qui me semble la plus appropriée pour expliquer ce phénomène diffus des rapports qui existent entre l'ordre juridique ou les ordres juridiques des droits économiques, sociaux et culturels internationaux. Je dis l'ordre ou les ordres parce que on assiste quand même à une certaine fragmentation de cet ordre juridique au niveau international. Donc, je reviens à ce que je disais. La théorie du pluralisme semble la plus appropriée pour expliquer ce phénomène de rapport qui existe entre l'ordre juridique international et les ordres normatifs qui cohabitent au sein du champ de la santé publique au Québec. Cet outil théorique permet d'identifier dans un premier temps les rapports verticaux qu'entretiennent les organismes communautaires de lutte contre le sida avec l'ordre ou les ordres juridiques internationaux pertinents, et dans un deuxième temps, le processus de pénétration de la norme du droit à la santé, de l'ordre normatif communautaire vers les ordres normatifs de la santé publique. Pour être qualifié d'ordre juridique, un ordre normatif doit posséder trois fonctions particulières, les fonctions d'énonciation, d'interprétation et de mise en œuvre. La normativité en santé publique est quant à elle définie comme un ensemble d'énoncés systématisés visant la prescription et la proscription de comportements à portée sanitaire. Au fin de mon étude, je postule que le droit international des droits économiques, sociaux et culturels constitue un ordre juridique dont le volet de mise en œuvre existe à un stade encore embryonnaire. L'ordre normatif de la santé publique, quant à lui, est composé de plusieurs ordres normatifs qui cohabitent en son sein, telle la normativité éthique, administrative, professionnelle, technoscientifique et juridique. Pour une meilleure compréhension du phénomène sous étude, la normativité propre aux organismes communautaires sera considérée distinctement de celle de la santé publique. Le recours au concept d'internormativité, défini comme l'ensemble des phénomènes constitués par les rapports qui se nouent et se dénouent entre deux catégories, ordre ou système de normes, sera donc d'une grande utilité aux fins de mon étude. Il servira en effet à comprendre le phénomène d'interaction de normativité suscité par la lutte contre le VIH-SIDA au Québec. Et dans cette perspective, c'est le concept de passeur de normes en tant que point de contact entre les normativités impliquées qui sera au cœur du travail. L'analyse des phénomènes d'internormativité sous étude devrait permettre de répondre à la question suivante. Comment le droit à la santé peut-il transiter de l'ordre juridique international aux ordres normatifs cohabitant au sein de la santé publique en l'absence d'une reconnaissance formelle de ce droit dans l'ordre juridique interne? Dans l'éventualité où il était possible de dire qu'il existe véritablement un tel transit, il serait alors pertinent s'interroger sur les effets que ce phénomène d'internormativité peut entraîner en termes de santé publique. Donc, à la lumière de mon cadre théorique, mon hypothèse que j'ai élaborée en trois points irait de la manière suivante. Il est probable que les organismes communautaires de lutte contre le sida s'approprient la norme du droit à la santé dans le contexte de la prévention du VIH-sida, même en l'absence d'intégration formelle de ce droit dans l'ordre juridique interne, s'il possède les ressources humaines nécessaires à la connaissance de cette norme. L'appropriation par les organismes communautaires de lutte contre le VIH-SIDA de la norme du droit à la santé peut entraîner le passage de cette norme de l'ordre juridique international aux ordres normatifs, éthiques et administratifs cohabitant au sein de la santé publique, même en l'absence de reconnaissance formelle de ce droit dans l'ordre juridique interne. Et finalement, ce phénomène d'internormativité est susceptible d'entraîner des changements de représentation des stratégies de prévention chez les acteurs gouvernementaux de santé publique, allant dans le sens d'une réhabilitation du concept de promotion de la santé. Donc, voilà, c'est une fin un peu abrupte, mais c'est tout à fait révélateur de l'état d'avancement de mon travail. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup, Christine, pour ta présentation très intéressante. Moi, j'ai eu la chance d'assister déjà à l'ancienne présentation que tu as présentée depuis quelque temps sur le sujet, mais j'ai remarqué une grande évolution, un grand avancement, parce que les acteurs sont bien déterminés. Les termes, même les plus simples termes comme le sida, droit à la santé, sont bien définis, droit de la personne relié au problème et tout. Puis le cadre théorique, je ne sais pas si c'était le même que tu avais. Est-ce que c'était l'effectivité ou que c'était toujours...
Ben là, c'est plus ciblé, oui, parce qu'effectivement, au début, je m'étais lancée sur le terrain de l'effectivité.
Oui, effectivement, je trouve que c'était plus simple et plus clair et mieux, je pense, adapté au sujet que tu as choisi, le cas théorique pluraliste, en tout cas, d'après moi, ce que j'ai... Et puis, la vérification de l'ordre juridique, arriver à la question générale et hypothèse. Donc, je trouvais que c'était vraiment très intéressant et je te souhaite une bonne continuité. J'ouvre la période des questions si quelqu'un a une question pour Christine. Ou peut-être, je ne sais pas, une opinion, une recommandation ou quelque chose.
Peut-être quelques commentaires généraux qui ne sont peut-être pas des questions, qui ne prennent pas la place de personne. Ayant été sous-ministre de la Santé pendant 5 ans, de 1993 à 1998, j'ai passé à travers beaucoup des étapes que vous avez mentionnées. Ah, puis historiquement, je trouve intéressant les mentions du rapport Lalonde, la Charte d'Ottawa et tout. Une question que, puis en fait, j'ai présidé le Comité international de bioéthique de l'UNESCO qui a fait la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme qui a été adoptée le 19 octobre 2005 par l'UNESCO. Et il y a un article là-dedans sur la responsabilité sociale et santé qui pourrait vous intéresser. Parce qu'il y a le droit à la santé là-dedans. Et moi, je ne suis pas une juriste, mais les experts en droit international qui étaient dans notre comité ont dit que c'est assez nouveau dans ce genre de texte d'avoir un article sur responsabilité sociale qui dit que, dans le fond, les peuples ont droit à une nourriture saine, alimentation saine, et un certain nombre de choses comme ça qui, d'une certaine façon, rejoignent la définition de la santé de l'OMS, qui est souvent contestée par les gouvernements. Alors, vous allez trouver souvent des textes qui parlent, qui disent que les pays doivent assurer, grosso modo, le droit à la santé selon la capacité de leurs ressources pour limiter, dans le fond, le droit. Et en fait, c'est mettre ensemble la reconnaissance de ce droit avec la définition de l'OMS pose au gouvernement des problèmes épouvantables parce qu'on peut mettre dans la santé, sur l'application de l'OMS, à peu près tout, l'éducation, l'environnement, je ne sais pas. Donc, ils ont toujours le signe de pierre en tête, donc ça craint toujours dans les assemblées annuelles de l'OMS, qui craignent toujours de s'engager trop profondément là-dedans s'il n'y a pas des balises ou des limites. À ce sujet, je pense que ce que vous avez dit est important sur les groupes communautaires liés autour du sida, parce que selon moi, il y a eu des articles là-dessus, je me suis dans une série d'articles dans le Washington Post, selon moi, ce sont des groupes qui ont transformé les capacités de la société civile à faire avancer un dossier. Parce que si, comme disait cette série d'articles, si au point de départ, le message était que seuls les usagers de l'aiguille ou les homosexuels pouvaient l'attraper, la possibilité d'élargir les modalités de financement se trouvait très limitée. Alors le message par ces communautés qui sont, étaient souvent, il y avait beaucoup d'artistes et des gens très forts en communication, le message a été de dire, dans le fond, tout le monde peut l'attraper. Même les enfants dans les maternelles, même les brosses à dents, les machins comme ça. Alors qu'il y a eu un énorme effort qui a à peu près bien réussi pour dire, ça intéresse tout le monde et pas seulement les groupes d'homosexuels, ceux qui s'injectent des drogues. Donc, moi, je trouve que j'en ai souvent discuté avec des gens qui s'occupent de la lutte au cancer ou de la lutte à toutes sortes de choses qui font plus de victimes que d'ici là, de dire, écoutez, allez voir ces gens-là, puis formez-vous leur stratégie de communication, parce que si on regarde les montants qui ont été mis et par le fédéral et par les provinces, c'est énorme dans la lutte au sida, versus ce qui est mis, par exemple, pour le cancer du sein ou pour différentes formes de cancer. Bon, évidemment, ces groupes-là ne veulent jamais faire de comparaison, ils détestent ça, mais je veux dire, c'est quand même, je trouve, très intéressant votre sujet et les liens avec la promotion, la prévention et le passage d'une approche collective à une approche individuelle qu'on discute souvent dans le milieu de santé publique. En fait, c'est un peu toute la question de la normativité. Parce que justement, quand on a fait la déclaration qui devait s'appeler déclaration sur des normes universelles en bioéthique, il y a plusieurs pays qui ne voulaient pas intituler ça comme ça parce que dans plusieurs pays, le mot norme signifie pas seulement le socle, mais la loi. Alors, ils trouvaient que ça les engagerait trop, donc finalement, on est revenu à la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Donc, en fait, je trouve que c'est un sujet compliqué, puisque la question de la normativité, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant, hein, il me semble, en bonne voie, là, de clarifier ou de tenter de clarifier les questions d'internormativité.
Donc déjà une remarque déjà sur le thème de l'effectivité. Je sais que tu es professionnel, tu travailles là-dedans, toi, mais en même temps c'est vraiment difficile à observer parce que pour m'être un petit peu attaqué à ça moi-même, c'est l'effectivité observée, l'effectivité attendue, il faut l'observer. Hein. Et observer, ça peut te prendre du temps. Donc déjà dans ta thèse, je pense que ça te prend pas mal de temps. Aussi, autre remarque, là tu parles d'ordre juridique. Il y a beaucoup de contraintes avec les ordres juridiques parce qu'il faut qu'ils soient autonomes et tout. Si vous travaillez en internormativité, moi je conseille d'aller voir un peu Mireille Delmas-Marty qui développe un nouveau concept qui est l'espace juridique et qui donnerait plus de latitude pour observer les phénomènes. Donc c'est ça, sur le fond de ton sujet, je n'y connais pas grand chose, donc c'est plus sur l'aspect théorique que je peux faire des remarques. Voilà.
Qu'est-ce que c'est un passeur de normes?
Ben c'est
façon que de l'employer.
Ben en fait c'est l'acteur qui se situe finalement à la frontière des ordres. Ben en l'occurrence pas seulement des ordres juridiques puisqu'il y a un ordre juridique, c'est l'ordre international. Il y a également les ordres normatifs qui cohabitent au sein du champ de la santé publique. Donc, le passeur de normes, c'est celui qui serait donc à la frontière, à l'interface de ces ordres, de cet ordre juridique et de ces ordres normatifs pour faire finalement, passer la norme, passer ou en tout cas tenter de la faire passer d'une façon ou d'une autre, qui va peut-être rencontrer des résistances, des embûches dans ce travail-là. Mais c'est donc le concept de la personne de l'acteur qui favorise l'intégration de la norme juridique dans les autres types de normativité.
Alors, c'est quoi l'exemple que vous avez parlé de la norme juridique par rapport à des ordres normatifs? Donc, il y a une différence entre les deux.
Oui.
Vous pouvez élaborer.
Oui, oui. Ben, en fait,
et puis donner un exemple d'un acteur qui pourrait faire.
Oui. Ben, mon hypothèse, en vertu de mon hypothèse, le passeur de normes, c'est les passeurs de normes, ce sont les organismes communautaires, étant donné leur statut hybride. Et donc, oui, c'est vrai que je parle d'un ordre juridique et d'ordre normatif. En fait, justement, pour finalement réfléchir à l'idée que même en l'absence d'une reconnaissance de ce droit dans l'ordre juridique interne, en fait, peut-être que le fait de faire transiter cette norme, non pas par le biais de l'ordre juridique international à l'ordre juridique interne, mais de l'ordre juridique international aux ordres normatifs, qui sont peut-être même plus, en contact plus direct avec les réalités observables en matière de prévention, finalement, c'est peut-être plus...
Par l'ordre juridique national.
Pardon?
Et à l'ordre juridique national.
Éventuellement, mais moi, je ne vais pas me rendre là. Ça entraîne en tout cas peut-être plus d'effets ou d'effectivité.
Mais quand il n'y a pas une contradiction dans un paradoxe quand on dit à un moment donné que le cadre, que le pluralisme juridique constitue une théorie intéressante pour les fins de l'étude, et dans le même souffle, on dit que les normativités des groupes communautaires ou de ceux qui œuvrent dans la santé publique ne constitueraient pas un ordre juridique?
Mais en fait, moi, le cadre théorique auquel je voudrais me référer, je le définirais comme M. Rocher l'a défini dans un de ses textes, et c'est plus large que le pluralisme juridique au sens strict, mais c'est le pluralisme des ordres juridiques et non juridiques. Parce que je ne crois pas que l'ordre normatif de santé publique, ou enfin les ordres normatifs qui cohabitent au sein de la santé publique, puissent être qualifiés d'ordre juridique. C'est un excellent point que tu soulevais. Si on regarde les trois fonctions, je pense qu'il manquerait, c'est surtout la fonction de mise en œuvre, parce que si on regarde les trois critères, énonciation de la règle, interprétation de la règle, et puis mise en œuvre de la règle, c'est surtout donc cet aspect-là qui serait manquant au sein des ordres normatifs de santé publique pour les qualifier d'ordre juridique, ou alors on pourrait peut-être les qualifier d'ordre juridique tronqué, ou... je ne sais pas si ça répond à...
Non, mais moi je trouve que cette idée de passeur de normes, c'est quelque chose qui peut... L'analogie, métaphore, qui est intéressante, et qui me semblerait intéressante de...
De creuser.
Peut-être que ça peut constituer une façon de résoudre ces questions. Hein.
Moi, j'avais une question. Pour pouvoir déterminer l'ordre juridique, est-ce que tu as pensé à des outils, par exemple, est-ce que tu vas faire des entrevues auprès des acteurs? Est-ce que c'est juste faire des recherches dans les règlements? Ou comment tu penses effectuer les recherches?
Ben en fait, le volet opératoire devrait en tout cas comprendre, oui, toute une dimension empirique vraiment axée sur, je pense, le questionnaire. Mais ce ne sera pas pour définir en tant que tel, ces données-là seront pas ne serviront pas à définir, je pense, ce que c'est qu'un ordre juridique, mais serviront plus à comprendre... quelles sont les connaissances des organismes à l'égard du droit à la santé, comment ils se l'approprient, ce droit, et comment ils se l'approprient, donc, véritablement dans leur stratégie de prévention. Parce que souvent, la façon classique, je pense, d'envisager cet aspect-là, ce serait de le voir plus comme un instrument dans des stratégies de plaidoyer, de revendication auprès de l'État. Et bon, je ne sais pas encore. J'aurais tendance à penser à ce stade-ci que j'exclurais cet aspect-là et que je regarderais plutôt comment ils se l'approprient vraiment au niveau de l'essence, au niveau de l'orientation que peut offrir le contenu normatif du droit dans leur propre stratégie de prévention. Et donc, le questionnaire servirait plus à ça et à voir aussi comment ce droit-là est vendu et promu auprès des acteurs de santé publique gouvernementaux. Et j'aurais aussi, je pense, un questionnaire qui s'adresserait aux acteurs gouvernementaux pour voir comment eux se représentent les stratégies de prévention en lien avec le droit à la santé. Parce que dans le discours officiel en santé publique, on voit beaucoup le concept de promotion de la santé. J'ai assisté récemment, au mois d'octobre, aux journées annuelles de santé publique. Et puis, c'était le thème de la promotion de la santé était mur à mur pendant 5 jours, mais en aucun cas on a entendu le mot droit de la personne prononcé. Donc, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut essayer de voir finalement est-ce que ces normes-là évoquent certaines choses chez les acteurs gouvernementaux. Donc, ce serait à cette fin-là que mes questionnaires.
Le débat en santé publique est beaucoup actuellement sur la responsabilité individuelle, oui, versus le sociétal.
Oui.
Et il y a beaucoup d'acteurs en santé publique, comme Gilles Paradis, des gens comme ça, qui sont un peu contre une approche qui dit « je suis responsable de tout ce qui m'arrive ».
Oui.
D'autres pensent différemment, mais à cet effet, les droits de la personne, des fois, ils hésitent à l'évoquer parce que droit égale devoir aussi.
Oui. Mais peut-être que les droits de la personne, en tout cas, seraient une manie. Moi, je ne sais pas, mais j'aurais tendance à, en tout cas, à penser que les droits de la personne pourraient peut-être être une façon de, justement, remettre à l'heure du jour ou redonner un second souffle à au concept de promotion de la santé qui est là, qu'on sent très présent dans l'approche de santé publique, mais qui reste assez, qui demeure un discours.
Parce que dans votre question, il y a quand même un gros facteur, un point d'interrogation sur la responsabilité individuelle.
Oui.
Effectivement, depuis maintenant, 15 ans, je parle pas ici, je parle pas pour l'Afrique, il y a quand même un paquet de choses qui ont été mises en œuvre et on peut se demander à un certain point s'il n'y a pas certaines catégories du monde qui, d'ailleurs, on dit qu'il y a un retour à la sexualité non protégée, des choses comme ça, c'est qu'il y a toute une catégorie de monde qui est en discussion par rapport à ça.
C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, j'ai lu justement ce matin des études qui sont faites à l'Université de Montréal, au groupe de recherche en santé publique et sur les facteurs sociaux, déterminants sociaux en santé publique. Et une étude donc qui est faite auprès de jeunes, je ne sais plus de quelle tranche d'âge, mais en tout cas, ce sont des jeunes qui sont en situation de pauvreté, itinérance, et utilisateurs de drogues injectables. Et il y a des liens qui sont faits entre l'extrême pauvreté de ces jeunes-là et l'exclusion sociale et les comportements à risque. Le groupe de jeunes est divisé en 3 strates, mais il y a une strate qui permet vraiment de mettre en évidence les liens qui existent entre la pauvreté et les comportements à risque. Mais vous avez tout à fait, votre commentaire est tout à fait juste. Dans le sens où mon sujet d'étude, je ne veux pas essayer de dire qu'il y a seulement que les facteurs, qu'il y a seulement que les déterminants socio-économiques et culturels qui ont un impact dans la lutte contre le sida, c'est sûr. C'est vrai que les risques individuels ont une importance. Et je pense que, en fait, il s'agit plutôt d'une superposition d'optique et non pas d'en éliminer une au profit d'une autre.
Moi, je reviens sur mes histoires d'ordre juridique encore.
Hein? Merci, obsédé. Le droit à la santé, c'est pas un droit juridique, c'est de l'infra-juridique, c'est du programmatique, c'est des vœux, c'est des souhaits, c'est pas justiciable, je ne peux pas aller devant le tribunal pour ça, donc je ne peux pas interpréter.
Ben, il y a des l'affaire Shaouli.
Ça, c'est le droit à la vie.
Ouais.
Dans la charte. C'était le droit à la vie. C'est un peu différent. Alors, c'est pour ça que je me demande dans quelle mesure ça ne peut pas poser un problème pour votre présentation théorique. De dire qu'il y a un ordre juridique et puis qu'il y a des sous-ordres normatifs. Et finalement, si on regarde bien l'ordre juridique, quand on parle de droit à la santé, ils sont peut-être au même niveau, au bout du compte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette juridicité positive qui nous séduit tant, en principe.
Enfin, c'est pas un ordre juridique. Ça dépend aussi de la définition, j'imagine, qu'on veut donner à ce qu'est le droit. Et dans ce sens-là, une définition. La définition
même
de
pas
validité.
Définition, même pas de définition, rien qu'au niveau des effets. hein, de ces normes, parce, qu'alors, parce que moi, je trouve à ce moment-là, elles sont presque au même niveau. Les normes du communicant communautaire, voilà, santé, ou du code, sont presque les mêmes, il n'y a pas de hiérarchie. Parce que le droit à la santé, c'est un droit de conquête, en fait, c'est pas aussi... Parce que quand on parle de liberté, on ne peut pas comparer le droit à la santé quand on est dans la charte québécoise avec le droit à la vie, à la sécurité de sa personne quand on est dans la charte canadienne, ou avec le droit à la... Je pense qu'il pourrait être en rapport, mais enfin, à la non-discrimination, les droits d'égalité, des choses comme ça.
Mais la validité du droit, ouais, elle dépend de certains critères. Si on regarde les critères de la validité, donc c'est une norme qui émane d'un ordre d'organe autorisé à édicter du droit. Il y a des organes qui sont... enfin, ce droit est légitime et ce droit connaît une certaine effectivité. Donc moi, je me dis que si on analyse le droit à la santé eu égard à ces trois critères de validité du droit qui sont définis par François Host et Michel Van de Kerschol, le droit à la santé me semble avoir les trois propriétés à des nuances variables, des trois propriétés du droit. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il y a vraiment une distinction à faire au niveau du critère de juridicité, qui, même si ces droits-là ne sont pas justifiables dans l'ordre juridique interne, connaissent quand même une certaine effectivité.
Alors, dans votre approche, l'auteur de la norme, c'est ce qui fait le jeu. C'est ça.
L'auteur de la norme?
Ah oui, parce que c'est comme c'est le Parlement, c'est donc le Saint Graal normatif. Alors, par conséquent, puisque ça vient du Parlement, même si ce n'est pas justiciable, même si ça... Parce que le législateur, il parle,
Dans l'ordre juridique interne, ouais, il n'est pas reconnu le droit à la santé, dans la Charte québécoise. Ouais. Il n'apparaît pas dans la Charte québécoise.
Il n'apparaît pas dans la Charte québécoise, non.
Okay. Il apparaît seulement au pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et non, je ne pense pas que ce soit directement relié à l'auteur, puisque si on regarde les trois critères, validité, légitimité, effectivité...
Bon, moi, je disais, vous qui avez dit autorité un peu plus tôt dans votre... Autorité agréée.
Oui, mais enfin, ça, c'est au niveau du critère de la validité.
En fait, l'effectivité fait partie de la validité. Moi, j'aurais un conseil à te donner. Tu as une bonne connaissance experte, mais en fait, ne te perds pas dans les méandres de la sociologie du droit et de la philosophie du droit, parce qu'à un moment, on s'y retrouve plus. Hein.
C'est très délicat ce que vous dites. Sociologie du droit, j'ai un peu un chèque qui a pas dirigé.
D'ailleurs, son discours est fortement intrigué.
Est-ce que tu peux sociologues
autour de
la table?
Je t'en parle.
Je dis ça dans le sens que on vient et puis on essaye de poser un cadre théorique sur toutes nos réflexions, et des fois on se force à faire rentrer toutes nos réflexions dans ce cadre théorique qu'on aime tout le temps et qu'on trouve formidable, puis qu'on trouve bien écrit et tout. Puis des fois, on n'arrive pas à faire rentrer toutes nos idées dans ce cadre, en fait, et on pousse. Et puis, même dans ta démarche, là, fais bien attention, tu sais, parce que je pense que tu vas avoir une démarche inductive, tu vas faire des enquêtes et tout. Pense bien au temps que ça va te prendre et au financement que cela va te prendre. C'est bien vous, je suis pas pessimiste, mais je lui dis les choses telles que je les ressens, moi. Chacun a droit à mon opinion.
C'est très bien dit.
Au niveau du terme théorique, quand même, je comprends tout à fait ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps... J'avais pas l'impression, moi, de pousser si fort pour que le droit à la santé réponde aux critères de validité du droit. Mais là, j'ai peut-être une lecture, comment dire...
Je crois qu'il y a un petit effort synthé, peut-être, là-dessus. Hein? Je ne sais pas si vous l'avez justifié en deux coups de cuillère à peau, mais là, j'ai l'impression qu'on en a un peu plus, quand même, parce que c'est quelque chose, pour un juriste positif de base, qui est vraiment un chose qui va sortir...
Mais il est évident qu'entre les approches européennes et puis culturel de tout le pays, donc le Canada, l'Australie, c'est une semaine différente quand on parle de ces normatifs. Il y a le droit au logement aux âmes en France, c'est ça vous demande.
C'est ça, oui. Oui, oui, parce que alors voir un sans-abri aller devant le tribunal pour réclamer un logement.
Ben, c'est ça. Hein?
Mais justement, si on revient à l'arrêt Baker, puis qu'en droit positif, justement, on considère que par le biais de l'approche contextuelle d'interprétation, les juges peuvent aller voir les mesures administratives qui ont été adoptées, enfin, des mesures administratives mise en œuvre, adoptée par les acteurs administratifs, comme des signes de la mise en œuvre dans l'ordre interne du droit international, ça donne quand même de l'eau.
Moi, personnellement, je suis très pour, mais sauf que c'est très controversé. Oui, il suffit d'aller
en face.
Je pense à Stéphane Bollack qui a écrit des articles très, très... Il est très contre cet arrêt Baker et puis cette façon de dire oui, on peut prendre en compte contextuellement des traités non ratifiés dans le droit interne, etc., etc. Je crois qu'il est un petit peu trop rigide et peut-être un peu trop positiviste. Mais il faut faire attention, je veux dire, Baker n'a pas clos la discussion, puis c'est fini, c'est comme ça. Il y a encore beaucoup de... Oui, c'est vrai. Vous, effectivement, je suis en train de lire votre examen de synthèse, je le remarque.
C'est le praticien, hein. Moi, je suis incapable de m'en départir.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Alors, j'aimerais remercier beaucoup Christine Cézina pour la présentation.
Merci beaucoup.